Matthieu chapitre 13, versets 37 à 39. Il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, sont les anges. » Bonjour à tous, frères et sœurs. Et bon sabbat. Si c'est le jour où vous regardez cette méditation. Aujourd'hui, en lien direct avec nos méditations précédentes, des derniers sabbats, sur la pluie de l'arrière-saison, il était inévitable que nous entreprenions une étude, cette fois-ci, qui porte sur le sujet de la moisson. La moisson. Parce que tout ce sujet de la pluie et de l'arrière-saison, ça n'a aucun sens, aucune valeur, si nous comprenons tout ce qui a trait à la moisson. La moisson, c'est tout ce pourquoi ce sujet de la pluie et de l'arrière-saison est donné. C'est en vue de cette récolte finale d'un peuple par le Seigneur et pour lui. Et compte tenu des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, il est plus que jamais temps que nous ayons une compréhension correcte de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui sur la ligne de progression des accomplissements de la prophétie biblique. Parce que sans cela, sans cette compréhension correcte, de là où nous nous trouvons aujourd'hui, sur cette ligne historique de l'accomplissement prophétique et biblique, sans cela, nous sommes comme un bateau en mer, sans boussole, sans carte et sans compas. Si nous n'avons pas, si nous ne discernons pas, si nous ne comprenons pas où nous nous trouvons réellement à partir d'une interprétation sensée et biblique de la parole de Dieu, eh bien nous sommes comme voguant tel un navire sur la mer sans aucune direction. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'aimerais que nous puissions nous attarder sur des révélations vitales sur la moisson. Pas des révélations optionnelles, pas des opinions humaines, mais des révélations vitales et bibliques sur le sujet de la moisson, qui est tout ce qui donne du sens à la pluie, aux premières pluies et à la pluie de l'arrière-saison que nous avions contemplée précédemment. Et donc j'aimerais attirer votre attention maintenant, frères et sœurs, vers les tracés fondamentaux et prophétiques sur la moisson que Jésus nous a donné lui-même dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Et je dis bien des tracés fondamentaux et prophétiques parce qu'il ne s'agit pas simplement de principes que Jésus a ici mis en avant et qu'il nous a présentés, mais il s'agit bel et bien de tracés prophétiques par lesquels nous pouvons segmenter chacune des déclarations du Seigneur en harmonie avec d'autres passages de la parole de Dieu qui nous aident à avoir une vision élargie et qui comprend davantage que simplement ces paroles lues hors de tout autre témoin biblique. Parce que, comme Jésus l'a dit, un autre apôtre l'a dit, sous la parole de deux ou trois témoins, que toute chose soit établie. Et donc, avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Nous avons besoin de plusieurs témoins pour pouvoir dire quelque chose, pour pouvoir recevoir un enseignement et pour pouvoir enseigner une doctrine. Dans Matthieu chapitre 13, verset 24, nous lisons. Jésus leur proposa une autre parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. » Donc vous avez un champ qui est rempli de blé, mais qui est aussi rempli d'ivraie. Les deux poussent ensemble. Alors les serviteurs, verset 27, alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui répondirent, « Veux-tu donc que nous allions l'accueillir ?» Et il dit, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. » Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceau pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Voilà les tracés fondamentaux sur le blé, le froment et l'ivraie, et sur la nécessité de ne pas essayer de discerner qui est du blé et qui est de l'ivraie, que Jésus enseignait ici par rapport aux relations que nous devrions entretenir entre frères et sœurs dans une église qui enseigne la même vérité. Très, très important que nous fassions une distinction ici, parce que c'était le contexte dans lequel Jésus enseignait cette parabole. Et j'aimerais attirer votre attention ici vers ce fait spécifique, cette parole spécifique, cette expression très particulière. Notre compréhension des mots jusqu'à la moisson, elle jouera un rôle charnière dans toute notre vision spirituelle et dans toute notre expérience chrétienne en cette fin des temps. Qu'est-ce qui jouera un tel rôle ? Notre compréhension des mots jusqu'à la moisson. Et pourquoi dis-je cela ? Parce que vous voyez, frères et sœurs, je ne parle même pas du monde protestant. Je ne rentre même pas dans l'équation. Vous voyez, parmi les cercles adventistes aujourd'hui, nous entendons ce langage qui est pris de la Bible, mais qui... Mais ces paroles de la parole de Dieu sont prises avec une certaine perspective, une certaine compréhension qui mène à dire et à penser qu'il faut mettre, il faut ne pas juger, il ne faut pas faire de jugement de personne, et que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il faut attendre, il faut laisser croître l'ivraie et le blé ensemble jusqu'à la moisson. Et donc, nous ne nous séparerons jamais. Nous ne nous séparerons jamais de ceux qui vivent et marchent dans l'apostasie. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Parce que s'il en est ainsi, si telle est notre vision, et que nous disons sans cesse il faut laisser croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson, en comprenant cela d'une certaine perspective, eh bien, cela jouera un rôle charnière dans toute notre vision spirituelle. Cela impactera toute notre vision spirituelle. Une juste compréhension de ce sujet, de la moisson, contribuera à notre discernement spirituel. Mais une compréhension erronée de ce sujet entraînera inévitablement un aveuglement et une confusion dans tous les recoins de notre marche avec Dieu. Regardez avec moi, frères et sœurs, maintenant. Relisons ensemble ces paroles de Jésus. Les serviteurs ont dit à Jésus, « Veux-tu donc que nous allions cueillir cette ivraie ?» Cette ivraie, elle est dans ton champ, elle souille tout, elle va nous poser des problèmes à la moisson, « Veux-tu que nous allions la sortir ?» Il dit, verset 29, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. » Donc Jésus disait, « Ce n'est pas prêt à moissonner. » Donc, ne touchez pas à l'ivraie. Que disait-il ensuite, verset 30 ? « Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceau pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Nous voulons permettre au Seigneur d'élargir notre compréhension pour savoir non pas ce que l'homme pense, ce que l'homme dit, mais ce que dit l'Éternel. Comment est-ce que Jésus a élargi sa propre déclaration que nous venons de lire? Nous voyons son élargissement au verset 36 à 43. Matthieu chapitre 13, verset 36 à 43. Alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, s'en alla à la maison et ses disciples, étant venus vers lui, lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Ils ne s'en sont pas arrêtés là. Les disciples ont voulu savoir. Ils n'ont pas dit « Jusqu'à la moisson, nous continuons jusqu'à la moisson tel que nous sommes. » Non, les disciples ont dit « Non mais Jésus, qu'est-ce que c'est vraiment ? La moisson quand ? La moisson qui ? Quoi ? Comment ?» Les disciples ont manifesté qu'ils étaient dans leur cœur comme les Bériens, qu'ils voulaient savoir les tenants et aboutissants de la vérité sur ce sujet. Il vint vers lui et lui dire « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Nous ne savons pas, Jésus, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas les réponses. Vous n'avez pas les réponses, si ce n'est celles qui sont inscrites noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et donc nous voulons venir à Dieu et dire « Explique-nous, Seigneur, la parabole, c'est troublant. Ce n'est pas assez précis. » Parce que c'est une parabole. Et donc Jésus leur répond sans les figures. Et il dit, il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Nous avons vu d'ailleurs dans le début, nous ne l'avons pas vu, mais nous voyons dans le début du chapitre 13, cette fameuse parabole du semeur et de la semence qui est semée et qui tombe en divers endroits, à certains endroits, dans des endroits pierreux, ensuite parmi les épines, et ensuite dans la bonne terre. C'est le début de la parabole qui entraîne ensuite cette suite vis-à-vis de l'ivraie dans le champ, et qui nous mène ensuite au verset 37, à l'élargissement et l'explication de Jésus lui-même de ses propres paroles. Il dit, celui qui sème la bonne semence, dont il était question au verset 4, ce semeur qui sortit pour semer, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. Et donc nous savons, parce qu'il est écrit aussi que le semeur sème la parole à un autre endroit, qu'il y a une double application sur cette semence que Jésus lui-même a fournie au peuple de Dieu, de sorte que nous n'avons pas besoin de pondre une interprétation double. C'est celle que Dieu a donnée en ce qu'il dit. La bonne semence est à la fois la parole de Dieu, parce qu'il est écrit le semeur sème la parole, et c'était aussi les enfants du royaume. Parce que ceux qui reçoivent la parole de Dieu en leur cœur et âme, comme cette semence qui est tombée dans la bonne terre et qui a rapporté du fruit, ceux-là deviennent à leur tour la semence de Dieu pour le monde. Parce qu'ils deviennent une lettre écrite par l'Esprit de Dieu, envoyée par Dieu même, à travers le Saint-Esprit, aux hommes que Dieu désire atteindre et toucher par sa grâce. Et c'est ainsi qu'il peut être dit que la bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Et l'ivraie, ce sont les enfants du malin, parce que nous avons lu au verset... au verset 28, c'est un ennemi qui a fait cela. En parlant de l'ivraie, c'est un ennemi qui a semé ces personnes qui ne sont pas converties à Jésus-Christ, qui ne sont pas tombées pour être brisées sur le roc. Ces personnes qui sont là, qui sont présentes comme cela, qui sont cette ivraie. Jésus a dit, c'est l'ennemi qui les a amenés. C'est l'ennemi qui les a semés. Vous comprenez? De sorte qu'il peut être écrit, l'ivraie, ce sont les enfants du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et ensuite, maintenant, nous arrivons à cet élément charnière de l'explication de Jésus sur le sujet de la moisson. Écoutez bien, frères et sœurs. Et pas simplement écouter, et n'écoutons pas simplement, mais ouvrons nos oreilles et nos cœurs. La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. Je poursuis jusqu'au verset 43, et ensuite nous allons revenir au verset 39. Comme donc on amasse l'ivraie, et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles. Ce sera déterminé par notre disposition à ne pas nous accrocher à nos préconceptions, mais à lâcher prise et à recevoir quoi que le Seigneur enseigne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce qui nous est donné ici dans cette explication qui est tout particulièrement d'une valeur essentielle pour que nous ayons cette compréhension correcte sur le sujet de la moisson? Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous relevez le champ, la moisson. Et les moissonneurs. Qu'est-ce que le champ? Le champ, c'est le monde. Qu'est-ce que la moisson? La moisson, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que les moissonneurs? Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, sans l'ombre d'un doute, Jésus a ôté un voile qui aurait pu rendre cette parabole un sujet de confusion, un sujet qui prête à confusion, et a éclairci, posé un fondement clair sur le sujet de la moisson. Et nous voulons plonger nos regards dans cette explication que Jésus a donnée parce qu'elle donne lieu à d'autres embranchements dans la parole de Dieu, qui nous permettent d'avoir et de recevoir les révélations vitales et essentielles pour nous en ces derniers jours sur ce sujet précisément de la moisson. Et donc je pose la question, quand est-ce que, frères et sœurs, quand est-ce que la moisson a lieu? Ou plutôt, qu'est-ce que la moisson? Et la réponse, c'est la fin du monde. De telle sorte que pour répondre à ces deux questions, nous avons la même réponse, à savoir que la moisson a lieu et elle est la fin du monde. Et donc la grande question ici, frères et sœurs, ce n'est pas tant quelle est la vérité, mais qu'est-il écrit et comment lis-tu? Comment lis-tu? Parce que les choses sont écrites noir sur blanc, mais c'est comment nous les lisons, comment nous les interprétons, qui va changer toute notre vision, à savoir si nous les lisons telles que Dieu les entend, ou si nous les lisons avec à l'arrière-plan de notre intelligence, une compréhension que nous avons obtenue de la bouche d'hommes qui n'ont pas reçu la parole pure et simple de Dieu. La raison pour laquelle je dis ça, elle est simple, frères et sœurs, c'est que beaucoup en ces derniers jours ont une compréhension futuriste des prophéties. Et ils appliquent notamment cette déclaration-là sur la fin du monde, ils l'appliquent au retour de Jésus. Ils appliquent cette déclaration jusqu'à la moisson, où la moisson, c'est la fin du monde, à un événement bref et succinct. Un événement qui est très court et très condensé. C'est la compréhension qui est généralement reçue sur ce sujet-là. Mais quelle est l'illustration qui nous est donnée par laquelle nous pouvons voir que ce n'est pas du tout ce que Jésus voulait dire? Quelle est-elle? Jésus nous a donné cette illustration par laquelle nous pouvons voir quelle était la moisson, le genre de moisson qui était signifié par ses propres paroles et sa propre explication. Vous le lisez dans Matthieu chapitre 13, versets 40 à 43 que nous venons de lire et que nous relisons, où il est écrit « Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements de dents. Comme on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu. Que signifie ce langage? Que signifie ce langage? Nous pouvons lire cela superficiellement et rater tout le sens, rater tout le message. Et en effet, c'est ce qui est le cas pour la grande majorité du christianisme aujourd'hui, y compris de nombreux cercles adventistes, c'est que nous lisons ces choses-là et nous passons complètement à côté de ce que Dieu voulait communiquer. Attardons-nous un instant, frères et sœurs, sur ces paroles du Seigneur. Que signifie ce langage? Comme donc on amasse l'ivraie. Cela dénote une comparaison, n'est-ce pas? Comme on amasse l'ivraie. Au temps de Christ, la moisson était faite à la main. Et cela prenait beaucoup de temps et beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de moissonneurs. Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu. ce qui se passait et ce qui se passe encore dans certains pays où ils n'ont pas les moyens d'acheter ou de faire de payer une prestation de moissonneuse-batteuse, soit parce qu'ils ont des moyens très très limités, soit parce que leur champ ne justifie pas de solliciter un engin si énorme. Et ben, ce qui se passe, c'est que la moisson, la récolte du blé, se fait à la faux. À la faux ou avec la faucille. Soit la faucille, soit la faux, à savoir que la faux, c'est le même principe, mais beaucoup plus grand et permettant de couper de plus grandes quantités en un seul mouvement. Et donc, c'est ce qui se passe du temps de Jésus, et encore aujourd'hui, on peut le voir, c'est que il partait, le propriétaire du champ engageait de nombreux moissonneurs, de nombreux ouvriers, de nombreux ouvriers pour une courte période de temps. Et ces ouvriers maintenant, qui étaient nombreux, étaient envoyés dans le champ avec leurs faux, et ils coupaient le blé, ou leur faucille, ils coupaient le blé, si c'est avec la faucille, ils coupaient le blé, et jusqu'à ce qu'ils aient pris une petite gerbe, et ensuite ils entouraient cette gerbe avec avec un plant de blé, et ensuite ils posaient, etc. Ils coupaient jusqu'à ce qu'ils aient la main pleine, ensuite ils entouraient, ils liaient cette petite gerbe, ils la posaient, ils liaient, ils coupaient, ils liaient, ils posaient, etc. Et derrière eux étaient d'autres moissonneurs qui avaient pour responsabilité, pour rôle, pour travail de rassembler toutes ces petites gerbes et de faire de grands faisceaux. C'était comme cela que la moisson était accomplie à l'ancienne. Dans les temps passés, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de combiné, de ces gigantesques moissonneuses-batteuses, ces choses-là n'existaient pas. Et donc, lorsque Jésus disait « Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde », Jésus parlait non pas d'un événement court, succinct, bref, tranché, une très courte période de temps, mais il parlait d'une longue période de temps, une période prolongée, durant laquelle les moissonneurs, ou à savoir les anges, accompliraient ce travail de couper, lier, poser, rassembler, élever en faisceau. Voilà de quoi Jésus parlait. Une moisson à l'ancienne. C'est de cela que Jésus parle. Il n'y a pas de tracteur dans la parabole du Seigneur. Pas de machine, mais un travail ardent, ardu, ardu. Un travail prolongé sous la chaleur de l'été. Cela prenait beaucoup de temps et beaucoup de main-d'œuvre. La fin du monde dont Jésus parle ici ne peut donc pas être un simple événement et une séparation rapide d'entre du blé et de l'ivraie, comme pourrait l'imaginer avec notre mentalité du XXe siècle, où une moissonneuse ou une moisson de plusieurs hectares peut être accomplie en une seule journée. Ce n'était pas du tout de quoi Jésus parlait. Jésus parlait d'un temps où la moisson prenait plusieurs jours, plusieurs semaines. S'il s'agissait de plusieurs hectares, ils pouvaient être là plusieurs semaines, selon leur nombre. En fonction du nombre qu'ils étaient, s'ils étaient 4 ou 10 ou 20, cela pouvait prendre une période prolongée. S'ils ne sont que 3, s'ils ne sont que 5, et qu'ils ont 10 hectares, 20 hectares, combien de temps va prendre la moisson? Peut-être qu'ils vont commencer tellement que ça va prendre de temps quand le blé est encore vert. C'est pour vous donner un ordre d'idée de l'esprit qui est derrière les paroles de Jésus, de la pensée qui est sollicitée ici par le Seigneur dans ces choses qui ont été déclarées par l'Esprit de Dieu. La moisson, c'est la fin du monde. Pouvons-nous comprendre cette expression de manière biblique et intelligente? Pour cela, nous avons besoin de nous tourner vers un autre passage, celui de Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8 et verset 14. Daniel 8, chapitre, pardon, Daniel chapitre 8, verset 14. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous connaissons ce passage, n'est-ce pas, frères et sœurs? Il s'agit de la prophétie qui annonçait le commencement de la purification du sanctuaire céleste qui est composé de deux appartements, le lieu saint et le lieu très saint. Il s'agissait de cette prophétie qui, nous le savons, a trouvé son accomplissement le 22 octobre 1844. Et regardez ce qu'il est déclaré au sujet de cette prophétie qui est le fondement de toutes nos croyances en tant qu'adventistes du septième jour. Regardez au verset 17 et 19. Et il, l'ange, vint près du lieu où je me tenais, disait Daniel, et à sa venue je fus épouvanté, et je tombai sur ma face, et il me dit, comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Verset 19. Et il dit, voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera au dernier temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Verset 26. La vision des soirs et des matins qui a été dite est véritable. En d'autres termes, c'est une véritable prophétie. Ce n'est pas une parabole. La vision des soirs et des matins qui a été dite au verset 14 est véritable, mais toi, Daniel, scelle la vision car elle se rapporte à un temps éloigné. En effet, c'était très loin du temps de Daniel. Et donc c'est pour cela qu'il est écrit dans Daniel chapitre 12, nous y allons, verset 4, Daniel chapitre 12, verset 4, « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. » Jusqu'au temps de la fin. Et nous avons déjà fait les calculs, frères et sœurs. Vous savez pertinemment que la prophétie des 2300 jours et matins, qui n'est autre qu'une prophétie de 2300 années littérales, a commencé en 457 avant Jésus-Christ, à partir de ce décret d'Artaxerxès, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ordonnant de rebâtir Jérusalem. À partir de cette date, qui nous mène en 1844, et l'ange disait à Daniel, chapitre 8, verset 17, « Comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. » Il est en train de dire, 1844, c'est le temps de la fin. Et nous savons, par notre compréhension des paroles que nous pouvons trouver au sujet de la papauté, de la puissance papale, que cette puissance, cette suprématie papale durerait un temps et des temps et la moitié d'un temps, ce qui équivaut dans Apocalypse chapitre 12 verset 6 à 1260 jours prophétiques, ce qui équivaut à 1260 années littérales, ce qui nous amène en 1798. Ce que nous appelons régulièrement parmi les adventistes comme le temps de la fin. Où il est écrit ici dans Apocalypse chapitre 12 verset 6, et la femme s'enfuit, l'église s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et verset 14, « Mais deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu où elle fut nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps loin de la présence du serpent. » C'était le temps où l'Église alla dans le désert à cause du fait que maintenant le dragon était précipité sur la terre et s'en allait faire la guerre à la femme. Pendant combien de temps? 1260 jours, jusqu'à ce que, chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, etc. » Et nous savons que en 1798, le général Berthier est venu prendre le pape captif. Et donc, cette suprématie papale a pris fin. Cette tête a été blessée à mort. Et la puissance civile de l'Église catholique romaine a pris fin à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, nous savons que c'était le commencement du temps de la fin. Mais tout particulièrement, ce que nous venons de lire, dans Daniel chapitre 8, versets 17 et 19, le temps de la fin, c'est aussi un terme qui est appliqué en 1844. Et donc, la purification du sanctuaire céleste et le jugement investigatif, qui sont la même chose, c'est donc pour le temps de la fin. Comme je reprends les paroles. À savoir la fin du monde dont Jésus parlait dans son explication de la moisson, où il disait « La moisson, c'est la fin du monde. » Et là que vous me dites « Mais mon frère, tu l'inventes. » Tu l'inventes, frère Victor. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Et pour cela, j'attire notre attention vers ces paroles de l'esprit de prophétie, où il est écrit dans le livre en anglais, qui n'est pas traduit, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, à la page 234 et au paragraphe 2, le temps du jugement dont nous parlons ici, le temps du jugement est une période des plus solennelles lorsque le Seigneur rassemble les siens du milieu de l'ivraie. Mais je pensais que le Seigneur y rassemblait les siens du milieu de l'ivraie qu'à la fin du monde. Là, le Seigneur vient de confirmer la fin du monde. Et le temps de la fin sont synonymes. Le temps du jugement, c'est la période pendant laquelle le Seigneur rassemble les siens du milieu de l'ivraie. Et oui, frères et sœurs, et oui, c'est cela que j'essaie de vous dire en disant que si nous avons une compréhension erronée de ce sujet, cela impactera, aura une influence sur tous les recoins de notre marche avec Dieu, parce que je viens de lire, nous venons de lire, dans l'esprit de prophétie, le témoignage du Seigneur Jésus, que le temps du jugement, c'est la fin du monde, le début de la moisson. Le début de la moisson. Je le relis. Laissez les paroles faire un écho incessant dans votre esprit. Dans notre esprit, le temps du jugement est une période des plus solennelles lorsque le Seigneur rassemble les siens du milieu de l'ivraie. Le temps du jugement est quoi? C'est le temps de la fin, c'est la fin du monde, c'est la moisson. Le jugement investigatif est le commencement de la moisson dont Jésus parlait dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13. Pendant le temps du jugement, le Seigneur rassemble les siens d'entre l'ivraie. Et donc, frères et sœurs, je vous pose la question. La moisson a-t-elle commencé? Quand a-t-elle commencé? Nous venons d'y répondre, n'est-ce pas? 1844. La moisson a bel et bien commencé. Et rappelez-vous maintenant, nous avons vu nous sommes attardés sur ces paroles très très importantes, cruciales. La moisson, c'est la fin du monde. Nous avons une compréhension vitale que nous recevons de Dieu ici, à travers sa parole, je n'ai fait que lire. Et maintenant, nous voulons nous attarder sur cet autre segment, cette autre mini-section qui vient s'ajouter à ce que Jésus venait de dire, à savoir, les moissonneurs sont les anges. Et donc, nous posons la question. Quels anges? Quels anges? Allez-y avec moi dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 6. À 7 pour commencer. Tendez votre oreille, frères et sœurs, et essayez de voir si vous arrivez à discerner quelque chose ici, un lien établi par le Seigneur dans sa parole. Verset 6. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Est-ce que nous venons d'entendre la voix d'un moissonneur? Est-il en train de couper? Est-il en train de séparer? Est-il en train de trier? Vous voyez qu'il y a un début de moisson. Il coupe. Il coupe. Il dit « craignez Dieu » et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorer le Créateur. Adorer le Créateur qui a fait quoi? Qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux et qui s'est reposé le septième jour. Adorer celui-là, celui qui a établi son sabbat, Est-ce que cet ange est en train de moissonner, d'anticiper une séparation? Les moissonneurs sont les anges. Nous sommes en train, frères et sœurs, de rentrer dans une réelle, véritable compréhension biblique du sujet de la moisson. C'est vital, frères et sœurs, que nous comprenions ce que le Seigneur dit. Voilà la raison pour laquelle je demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui est écrit dans la loi, dans la parole? Comment lis-tu? La manière dont nous lisons va affecter tous les recoins de notre marche avec Jésus. Soit que nous lisions d'une manière pure, sans préjugés, soit que nous lisions d'une manière entachée par des doctrines et des commandements et des enseignements qui viennent des hommes. Cela influencera tout. Vous ne pouvez y échapper. D'où la raison pour laquelle je dis que ces révélations, cette compréhension de la moisson est vitale. Vous allez comprendre ensuite pourquoi je le dis. Pourquoi je dis ces choses-là? Pourquoi je peux me permettre d'avancer de telles affirmations? Nous continuons, toujours au chapitre 14 de l'Apocalypse, maintenant au verset 8. Regardez si vous entendez un autre moissonneur qui est en train de couper avec la faucille. Peut-être avec la faux, peut-être qu'il fait des plus grands gestes, peut-être qu'il coupe beaucoup plus. Verset 8. Et un autre ange le suivit en disant, « elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Est-ce là un moissonneur? Est-il en train de séparer? Est-il en train de récolter? Est-il en train de dire, il faut que vous quittiez Babylone? Est-il en train d'identifier l'ivraie? Babylone, elle est tombée, elle est tombée. Les églises protestantes, ses corps, sont apostats. Elle est en train d'appeler, pardon, cet ange est en train d'appeler le peuple de Dieu, le bon grain, le froment. Il est en train de le couper pour le grenier céleste. La moisson se poursuit. La moisson se poursuit. Discernez-le. Verset 9 à 12. Et un troisième ange les suivit. Ils sont en train de moissonner et ils se suivent. C'est exactement comme ça que cela se passe dans la moisson à l'ancienne. Ils se suivent. Un coupe, l'autre rassemble, l'autre un tri, l'autre rassemble, etc. Et l'autre met debout. Ils ont leur fonction. Le Fordisme, ce n'est pas Ford qui l'a inventé. C'est logique. C'est une manière de procéder qui est logique. Et les anges procèdent aussi de manière ordonnée, bien organisée. Et donc je lisais, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Il est en train de trier là. Vous le voyez, cette troisième ange, ça devient vraiment une sélection précise. Vous le voyez? Vous voyez que je ne l'ai pas fourni cette compréhension. Elle saute aux yeux quand vous commencez à relier les paroles du Seigneur à ses autres paroles et permettre à chaque compagnon de s'entraider. Pour reprendre les paroles de Ésaïe chapitre 28, je crois. Si quelqu'un adore la bête et son image, le troisième ange est en train de dire, celui qui fait cela, il est de l'ivraie et il sera brûlé. N'est-ce pas ce que Jésus avait dit? Comme on ramasse l'ivraie allons-y brièvement, Matthieu chapitre 13, j'ai oublié exactement les termes. Comme donc on amasse l'ivraie, chapitre 13, verset 40, comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Et là, vous avez le troisième ange, qui est le moissonneur, qui est en train de dire, si quelqu'un adore la bête et qu'il prend la marque et son image, et que s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira. Il boira. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Il ne s'agit pas d'un jugement arbitraire. Dieu est en train de dire, s'il fait cela, s'il sème cela, la rébellion, la résistance à l'évidence du sabbat et de la voix de sa conscience qu'il appelle à l'obéissance dans tous les petits détails de la vie. S'il fait cela, et que, à la fin, il adore la bête et son image, il boira. Il sera brûlé. Il a pris sa place parmi l'ivraie, et il a choisi d'être ce genre de personne. Il moissonnera ce qu'il a semé. Qu'est-ce qu'il moissonnera? Il sera brûlé avec l'ivraie. Et ensuite, vous avez cette sélection, ce tri, cette séparation qui est poursuivie dans les paroles qui ont trait au troisième ange, au verset 12. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est en train de bien serrer les gerbes de blé, les monter en fagot ou en faisceau, comme vous voulez le dire. Et il dit, et ensuite il se retire, il regarde le champ et il dit, regardez ça, regardez ça. C'est de ça dont il s'agit. Il dit, regardez ce travail. Ils sont beaux, ils brillent. Ce blé, ces grains. On les voit au soleil, à l'aurore et au matin, au coucher et au lever. Ils brillent, ils n'attendent qu'à être ramassés pour les greniers célestes. C'est d'ailleurs ce par quoi le chapitre termine quand nous nous tournons vers Apocalypse chapitre 14, versets 14 à 16, où il est écrit: je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est important ici que nous fassions une distinction primordiale. De quoi s'agit-il ici? Vous voyez, la faux a plusieurs utilités. Elle peut être utilisée pour couper, mais elle peut aussi être utilisée pour ramasser les gerbes et les lever et les jeter sur le chariot, oui, la remorque, qui est attelée elle-même aux bœufs ou aux chevaux. Et donc il ne s'agit pas ici de dire que Jésus fait la moisson, mais Jésus ramasse ce qui a déjà été moissonné par les anges, parce qu'il a lui-même dit, le Seigneur ne va pas se contredire, les moissonneurs sont les anges. Si le moissonneur c'était le Fils de Dieu, il l'aurait certainement dit. Et c'est pour cela que ici vous voyez très bien que les anges ont fait leur travail. Trois anges d'Apocalypse 14 ont fait leur travail. Et à la suite de cela, Jésus vient sur sa nuée. D'ailleurs, nous savons dans l'esprit de prophétie que Jésus ne touchera pas la terre. Il ne touchera pas la terre. La prochaine fois que Jésus touchera la terre, c'est quand il viendra labourer l'ancienne Jérusalem. Donc il ne viendra pas moissonner parce qu'il ne touchera pas la terre. Jésus va juste ramasser avec sa faux. Qu'est-ce que c'est? Dans l'un des livres de Thessaloniciens, nous disons que nous serons élevés aux cieux pour aller jusqu'à lui, n'est-ce pas? Donc Jésus ne vient pas toucher la terre. La moisson est opérée, est accomplie par les moissonneurs qui sont les anges, et les anges de la moisson, qui est le temps du jugement, ce sont les trois anges d'Apocalypse, chapitre 14. C'est indéniable. Vous ne pouvez vous soutirer à cette réalité. Il s'agit donc ici du rassemblement des gerbes de blé pour le grenier céleste. Sauf que Jésus n'est pas sur un chariot, il est sur une nuée, accompagné de myriades d'anges. Et ensuite, parce que cela fait aussi partie de cette activité-là, vous lisez au verset 17 à 20, « Et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante, et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante et lui dit « Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Nous sommes ici face au rassemblement de l'ivraie pour le feu, utilisé de manière synonyme avec la vendange des grappes de la vigne de la terre. Simplement, ce ne sont pas des grappes de la vigne du Seigneur, ce sont les grappes de la vigne de la terre. La vigne, comme c'est écrit à un autre endroit, de Sodome. Donc Dieu ne peut rien faire avec cela. Ils sont immangeables, il faut qu'il les presse et qui laisse le tout pourrir, fermenter. Il s'agit du sort de l'ivraie. D'ailleurs, il l'avait dit dans Matthieu chapitre 13, verset 40, « Comme on ramasse l'ivraie pour la brûler, ainsi il en sera à la fin du monde, au temps du jugement. » À la toute fin, alors, nous assisterons, ou plutôt, pas de nos propres yeux, mais cela aura lieu à la sixième plaie, à savoir Armageddon. Ce qui veut dire le mont de Megiddo, qui est précisément le mont qui est attenant à la vallée de Jizréel. Et cette vallée, si vous en calculez la superficie en commençant par Jizréel jusqu'à Jérusalem, vous avez exactement 1600 stades. Vérifiez-le. C'est là qu'il va rassembler les nations pour se faire la guerre, comme c'est écrit dans Joël chapitre 3, où il dit « métaphosie et rassemble ». Donc nous avons deux moissons. La moisson pour les greniers célestes et la moisson où le rassemblement, la vendange de l'ivraie des vignes de la terre pour le jour de la colère de Dieu. Et j'aimerais vous lire cette merveilleuse citation qui dissipe toute incertitude qui aurait pu demeurer après toutes ces révélations vitales sur la moisson auxquelles nous avons assisté dans notre étude. Je le lis dans Premiers Écrits, à la page 88, au paragraphe 1 et 2. Et je veux tout particulièrement m'attarder sur ce qui est écrit à la fin du paragraphe 2, mais le contexte est très très important parce que vous voyez qu'il s'agit ici de ce qui se passe pour l'ivraie et de ce qui se passe pour le froment, que Dieu va moissonner pour son grenier. Je lis. Il me fut montré un train roulant avec la rapidité de l'éclair. L'ange me dit de bien l'observer. Je fixai donc mes yeux sur ce train. Il me semblait que le monde entier y avait pris place, qu'il ne restait plus un seul homme ailleurs. J'ai lu cette vision, il semblait que tout le monde était sur ce train qui allait à la vitesse de l'éclair. Il me semblait que le monde entier y avait pris place, qu'il ne restait plus un seul homme ailleurs. L'ange me dit, ils sont liés en bottes pour être brûlés. Puis il me fit remarquer le chef de train qui avait l'air majestueux et que tous les voyageurs admiraient et révéraient. Je me demandai qui il était et je m'en ouvris à l'ange. Il me répondit, c'est Satan lui-même. C'est lui qui conduit le train sous la forme d'un ange de lumière. Il a rendu le monde captif. Tous ont cru à sa puissance séductrice, au mensonge. C'est pourquoi ils seront perdus. Celui qui est à côté de lui, le plus grand après lui, c'est le mécanicien. Et d'autres sont ses agents qui s'occupent de différents travaux selon les besoins. Ils vont ainsi à la perdition avec la rapidité de l'éclair. Et rappelez-vous, nous allons le voir. Je n'ai même pas encore lu. Nous allons le voir. Je demandais à l'ange si vraiment tout le monde était là. Il me dit de regarder dans une direction opposée. Et je vis une petite compagnie ou un petit groupe qui parcourait un chemin étroit. Tous semblaient être fermement unis, liés ensemble par la vérité, en faisceau ou compagnie. L'ange dit, le troisième ange les lie ou les scelle en faisceau pour le grenier céleste. Ici, le mot faisceau, vous pourriez l'utiliser en français par, l'interchanger en français par gerbe. Le troisième ange les lie ou les scelle en gerbe pour le grenier céleste. Vous savez, ces grands paquets, ces grands fagots de blé C'est ça l'image. En harmonie avec tout ce que nous avons vu, cette moisson à l'ancienne que Jésus, dont Jésus parlait et à laquelle Jésus faisait allusion dans sa parabole, qu'il a ensuite expliquée. Le troisième ange les lie ou les scelle en faisceau pour le grenier céleste. Donc vous aviez d'abord, je le relis, tous ceux qui étaient sur le train qui roulait avec la rapidité de l'éclair vers la perdition. Et à ce sujet, l'ange dit à la servante du Seigneur, ils sont liés en bottes pour être brûlés. Hein? Donc en fait, Satan les mène. Mais qu'est-ce qui se passe? Les anges les trient. Vous comprenez? Et par cela, vous voyez, frères et sœurs, que Dieu supervise toute l'œuvre dans son champ. Il n'y a rien qui est hors de la providence et de la direction de Dieu dans cette affaire. Rien du tout. Absolument rien. Parce qu'il est écrit, ils sont liés en bottes pour être brûlés. Dieu orchestre tout. Tout est bien organisé. Les anges ont leur métier. Ils sont moissonneurs. Les trois anges d'Apocalypse, chapitre 14. Et maintenant, à ce sujet-là d'ailleurs, je lis dans Premiers Écrits, page 118, paragraphe 1, le suivant. Je vis alors le troisième ange. Mon ange accompagnateur me dit, son œuvre est redoutable. Sa mission est solennelle. Il est l'ange qui doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour le grenier céleste. Ces choses devraient occuper tout l'esprit, retenir toute l'attention. C'est à ce point sérieux que l'esprit de prophétie nous dit que ces choses-là, cette activité-là, de la moisson, devrait occuper tout l'esprit, retenir toute l'attention. C'est vrai? Et donc, quelle est son œuvre et sa mission redoutable et son annelle à l'ange, au troisième ange? Il est l'ange qui doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour le grenier céleste. Pourquoi son œuvre est redoutable et sa mission solennelle? Parce qu'il est chargé de séparer le bon grain, le blé, de l'ivraie. Et donc, je pose la question, frères et sœurs, quand il est écrit, dans Matthieu chapitre 13, allons-y brièvement, dans Matthieu chapitre 13, verset 30. Quand il est écrit, laissez-les croître, l'ivraie et le froment, tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceau pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Lorsque nous lisons ces paroles, est-ce pour plus tard? Ou est-ce que cela a commencé il y a plus d'un siècle et demi? Je vous le relis. Le temps du jugement est une période des plus solennelles lorsque le Seigneur rassemble les siens du milieu de l'ivraie. Nous l'avons vu, les moissonneurs sont les anges. Et quand elle vit le troisième ange, L'ange accompagnateur lui dit « Son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il est l'ange qui doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour le grenier céleste. Ces choses devraient occuper tout l'esprit, retenir toute l'attention. » Est-ce que ces choses, bien-aimés, ont retenu toute notre attention? Est-ce que elles ont occupé tout notre esprit? Il convient, frères et sœurs, que nous entreprenions une réforme à ce sujet, parce que la moisson a commencé et elle est bientôt terminée. Et donc il nous incombe, bien-aimés, à faire en sorte et à nous assurer que notre salut est affermi et que nous avons une assurance d'avoir la vie éternelle et de la garder pour être rassemblés et moissonnés dans le grenier céleste du Seigneur. C'est ma prière que le Saint-Esprit accompagne ces paroles et prépare nos cœurs à davantage de contemplation de la vérité présente, la nourriture dont nous avons besoin en ces derniers jours, en ces derniers instants de la fin du monde. Alors que la moisson se poursuit et que tout a presque été déjà ramassé, qu'il n'y a plus que du glanage à opérer, puissions-nous avoir du discernement pour ne plus espérer des choses qui sont dans le passé, mais pour focaliser notre attention sur cette œuvre du troisième ange qui est redoutable et solennelle, et ouvrir nos cœurs grand ouverts à l'activité du Seigneur à travers les messages des trois anges dans toute leur réalité tranchante et scellante dans toute leur réalité qui a trait à la moisson du Seigneur. C'est ma prière que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse conjointement. Je prie au nom de Jésus. Amen.